Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews culture et histoire de Timeline. Aujourd'hui, en partenariat avec le salon Histoire de lire à Versailles, j'ai la chance de recevoir Thierry Lenz pour son Napoléon III. Alors Thierry Lenz, historien, professeur, écrivain, directeur de la Fondation Napoléon évidemment, et spécialiste de la période Napoléon Ier, Napoléon III. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Ravi vraiment de vous avoir. Donc Napoléon III, la modernité inachevée, le sous-titre est très important. D'abord, avant qu'on vous connaisse un peu mieux, rapidement, comment on fait pour passer du droit à l'histoire? C'était la semaine dernière.
Ah oui, alors, vous m'avez dit de le dire rapidement, c'est un peu difficile. Mais c'est parce que j'ai commencé par le droit, effectivement, et puis je me suis éloigné du droit. J'ai travaillé ensuite pendant une quinzaine d'années dans une entreprise privée. Et donc, comme passe-temps, j'avais la lecture, un peu l'écriture sur le Premier Empire.
Et l'histoire est arrivée.
Et voilà.
Et bon. Alors, est-ce que c'est une biographie plus un album à feuilleter, ce livre? Ce
oui,
livre formidable.
Oui, c'est ça. D'abord, c'est une biographie de Napoléon III. Ça n'est pas une histoire du Second Empire. Et puis, c'est illustré parce que cette collection, la Bibliothèque des Illustres, est coéditée par Perrin, mon éditeur habituel, et la Bibliothèque nationale de France. Et on va dire sur la centaine d'illustrations, il doit y en avoir 90 qui viennent des fonds de la Bibliothèque nationale.
Que j'avais franchement, j'avais jamais vu, donc c'est vraiment vraiment passionnant. En plus, le fond est vraiment intéressant. Rapidement, pour vous faire sauter au plafond peut-être, moi j'ai une fille qui a 13 ans et demi, donc en quatrième, et elle a le Second Empire à étudier, et Napoléon III, c'est une demi-ligne. Vraiment une demi-ligne. Ça a été Louis-Napoléon Bonaparte élu président de la République. Et à la fin, Napoléon III est viré à cause de Sedan. C'est invraisemblable.
Mais c'est souvent... Déjà, votre fille a de la chance parce qu'il y a quelques années, on n'aurait évidemment jamais parlé du Second Empire. Les programmes scolaires ont été modifiés il y a 5-6 ans par Jean-Michel Blanquer et le Comité national des programmes qui était présidé par la philosophe Souada Yada. Et donc, ils ont rétabli quand même le 19e siècle chronologique. Alors, elle reverra tout ça en première, donc rassurez-la, il y aura peut-être 3 lignes cette fois-ci sur, sur Napoléon III, mais je dirais que les programmes sont une chose, il y a quelques enseignants dans la salle, et la façon dont on fait cours est autre chose, et donc si elle tombe sur un professeur qui aime bien cette période, qui la connaît un petit peu, elle fera, oui, probablement pas plus d'une heure, une heure et demie sur le Second Empire.
Souvent je plains les profs d'histoire en tout cas. Pourquoi est-ce que Napoléon III est si mal connu, si mal aimé? Est-ce que c'est à cause ou grâce à Victor Hugo?
Alors, évidemment, mais c'est aussi à cause et grâce à lui-même, hein, parce que on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas le coup d'État de 1851. Il y a quand même 1500 morts à l'arrivée, ce qui est quand même une opération...
C'est pas neutre.
Voilà, il le sent un peu coulé. Et puis, évidemment, on ne peut pas lui faire grâce non plus de la guerre de 70, parce que...
Il n'en voulait pas lui-même.
Alors, mais c'est toujours ce qu'on dit après. Hein, je n'en voulais pas. Si j'avais pas été malade, j'aurais fait autrement. Il n'empêche qu'il se laisse mener à la guerre par un partie de la guerre au sein de son gouvernement et incapable d'y résister, alors même qu'il connaît très bien à la fois les enjeux et puis aussi il connaît l'état de l'armée française puisqu'il en est le commandant en chef.
Évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment du paupérisme et la fête impériale? On a l'impression que c'est plus le même homme.
Oui, alors Napoléon III d'abord, il a connu plusieurs phases dans sa vie, mais comme nous tous. Hein. C'est pour
Évidemment.
Ça que quand on étudie la biographie d'un personnage, il ne faut pas le prendre comme un personnage uniforme. Hein. Est-ce qu'il a toujours pensé la même chose? Est-ce qu'il a toujours voulu la même chose? Lui, on peut dire que sa rupture, c'est le moment de son deuxième coup d'État manqué contre Louis-Philippe en 1840, lorsqu'il est emprisonné. Il va rester presque 6 ans en prison. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à se créer une doctrine. Avant ça, c'était un prince de la maison impériale qui vivait sur un grand pied, qui n'avait pas tellement de contact avec la réalité politique de la France. À partir de ce moment-là, on peut dire que c'est un autre homme qui éclot, il va vers la quarantaine, et donc c'est ce moment de pensée, et c'est à ce moment-là qu'il écrit notamment ce livre dont le titre a marqué les esprits, qui est « De l'extinction du paupérisme ». On va dire Le titre, en fait, lui donne un aspect un peu socialiste. Hein, et d'ailleurs, lui-même s'y référera souvent. Le contenu, c'est autre chose, mais les gens n'avaient pas lu hein, l'extinction du paupérisme. Donc, il est sorti de cette période comme étant un progressiste, hein, on dirait aujourd'hui. Et ce que, en effet, il a essayé d'être au début de son règne. Mais là aussi, il faut dire que Napoléon III s'est heurté à ses propres soutiens. Il arrive au pouvoir, certes, avec le soutien des ouvriers et des paysans, surtout des ouvriers, d'ailleurs, ce qui est très étonnant parce que la République, on l'oublie toujours, a massacré les ouvriers parisiens en juin 1848, 12 à 15 000 morts, là aussi, hein, ça n'est pas rien. Ouais. C'est probablement plus que la Commune. Bon, et c'est déjà la Seconde République. Et puis, mais ses soutiens politiques, institutionnels, c'est plutôt la droite conservatrice. Et évidemment, il ne peut pas jouer toujours contre ses soutiens. Et il est même obligé, au moins dans les 10 premières années du règne, de lâcher du lest et de les laisser mener, de les laisser profiter de cette révolution industrielle qui arrive enfin en France et qui est très spectaculaire. Hein. Alors avec, mais je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, avec comme corollaire toutes les modifications sociales, l'exode rural, la façon dont on traite les ouvriers aussi à ce moment-là. Certes, il va y avoir une amélioration du niveau de vie, mais un historien disait que sous le Second Empire, les ouvriers sont passés de l'enfer au purgatoire. Donc il ne faut jamais trop exagérer aussi les succès sociaux du Second Empire et de Napoléon III.
Exact. Je mettais en avant le sous-titre, La modernité inachevée de votre livre. Quand il a été président de la République, là aussi, son mandat était inachevé, puisqu'il aurait voulu continuer. On ne va pas faire de la politique fiction. Est-ce que vous pensez qu'il aurait été différent s'il avait...
Non, je pense qu'un jour ou l'autre,
il aurait marché
à l'Empire. Il faut voir que son éducation, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est celle véritablement d'un prince. Ouais. Hein. Il ne faut pas voir Napoléon III seulement comme un conspirateur, comme quelqu'un qui court les bois, etc. C'est un homme qui est, non pas imbu, mais enfin très conscient de sa race, comme on disait à l'époque, de son destin, et dont, évidemment, à partir du moment où il a atteint le plus haut niveau du pouvoir, ne le voyait se poursuivre que sous une forme impériale.
Évidemment. J'avais un professeur à l'époque, Jean Tullard, que vous connaissez bien, qui disait Louis-Napoléon Bonaparte a été élu dans les campagnes parce qu'en face, c'était Lamartine. Et les gens pensaient que c'était Lamartine.
Oui,
c'est vrai ou c'est...
Oui, c'est du Jean Tullard hein, dans le texte, hein, évidemment. Mais vous savez, le numéro 2, c'est le général Cavaignac hein, dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire le candidat des Républicains, mais le même qui a massacré les ouvriers 6 mois plus tôt. Donc on le lui fait payer, évidemment.
Est-ce qu'on peut dire que le monde était en train de changer sous son règne et qu'en fait il ne l'a pas forcément vu, mais que ce soit lui ou les autres, déjà la Commune était déjà en marche, tout était déjà en train de se faire, le monde changeait.
Oui, le monde changeait alors je vous contredis un tout petit peu, Napoléon III fait partie de ceux qui l'ont vu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de modernité en ce qui le concerne. C'est qu'il a vu tous ces changements. Il les a compris parce qu'encore une fois, il avait beaucoup étudié. Il avait beaucoup lu les auteurs socialistes. Il avait lu Saint-Simon. Il s'était entouré de Saint-Simoniens. Et donc, il a vu ces choses venir. Mais tout ça a été aussi inachevé parce que les résistances dont nous parlions tout à l'heure, les nécessités d'une croissance économique qui a fait que l'État s'est mis au service des intérêts privés pendant ces 20 ans. Alors, ça n'était pas mauvais à l'arrivée, hein, puisque le développement économique de la France a été très, très, très spectaculaire. Mais sans doute qu'à un moment donné, deuxième partie du règne, Napoléon III aurait voulu aller plus loin, notamment sur le plan politique, où il avait compris, si vous voulez, Napoléon III a compris une chose, c'est que s'il ne concédait pas ce que demandaient les temps, on viendrait le chercher et il terminerait comme Louis-Philippe, comme Charles X.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ça, c'était ça.
Il fallait lâcher du lest.
Voilà. Donc, il lâche du lest, beaucoup moins par conviction que par nécessité. Il se rend compte que cette masse ouvrière qui est... très concentrée à Paris notamment, représente pour le régime un danger. Donc il faut lâcher du lest, il faut leur donner des avancées sociales. Alors c'est vrai que les avancées sociales du Second Empire sont d'abord des modifications législatives, et donc ça met toujours du temps à se mettre en marche. Ils croient beaucoup à ce que d'aucuns appellent aujourd'hui le ruissellement, mais on sait très bien que le ruissellement, ça ne ruisselle pas du premier coup, hein, et d'ailleurs c'est un ruissellement, donc ça va un petit peu lentement. Et sur le plan politique, il finit par créer véritablement un empire libéral et quasiment parlementaire, mais c'est 6 mois avant la chute. Quoi.
Oui, donc ça, ouais.
Là aussi, c'est totalement inachevé parce que on ne sait pas, on ne saura jamais ce qu'aurait donné un régime impérial parlementarisé.
Est-ce qu'on peut peut-être rappeler, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, ils n'ont peut-être pas encore tous lu votre livre, les grandes avancées, enfin les grandes réussites, parce qu'il faut quand même aussi parler des réussites, les grandes réussites sous Napoléon III.
Mais écoutez, les grandes réussites sont des réussites d'infrastructure. Hein. La France, à la fin du règne de Louis-Philippe, ressemble beaucoup à celle de Napoléon Ier. Quoi. C'est-à-dire on a un peu aménagé, on a fait des canaux, on a amélioré les routes, etc. Mais la révolution industrielle réclame une fluidité des transports, une fluidité des échanges qui n'est plus la même. Parce que là, on est sur des masses inouïes. Quoi. Et donc, les infrastructures, et notamment le chemin de fer, qui est la grande réussite du régime, parce qu'on débute avec 4000 kilomètres de voies, on termine avec 24 000. Pour information, 24 000, c'est ce qu'exploite aujourd'hui la SNCF.
C'est incroyable. Hein,
Alors, il y a 40 000 kilomètres de voies, mais enfin, il y en a beaucoup qui ne servent plus à rien. Mais voyez, c'est véritablement un effort énorme fait par le privé, mais avec l'aide de l'État, des prêts bonifiés, des garanties d'emprunt,
l'impulsion de l'État, en fait.
L'impulsion a été de l'État. Et Napoléon III est le premier chef d'État qui s'occupe d'économie tous les jours, matin et soir. Autrefois, les autres s'en occupaient aussi, mais c'était le commerce extérieur, c'était les grandes entreprises, etc. Louis-Napoléon, d'abord, il comprend les aspects économiques, il est relativement bien conseillé. Et puis ensuite, il fait prendre des décisions. Un système bancaire est créé à cette époque-là. Le Crédit Lyonnais date de cette époque-là. La Société Générale date de cette époque-là. Le Crédit Foncier date aussi de cette époque. Donc c'est véritablement la mise en forme à la fois de la révolution industrielle, d'une modernité économique, et puis aussi faire face à une mondialisation des échanges. La mondialisation, alors il y en a eu plusieurs, les historiens s'amusent toujours à vous dire la première, la deuxième, la troisième. Là, on est dans une période de mondialisation qui se manifeste d'abord par une présence française en Extrême-Orient, le percement évidemment du canal de Suez, la création de la compagnie transatlantique, etc. etc. Donc il a pris, si vous voulez, en 18 ans, il a pris en charge véritablement un changement radical de ce qu'était la France, qui est moins rurale, qui devient plus industrielle, qui échange beaucoup plus. Napoléon III est un partisan du libre-échange. On le lui a d'ailleurs beaucoup reproché parce qu'il est sûr que la grandeur de l'Empire viendra de la puissance économique et non pas de la guerre, même s'il en a fait beaucoup. Hein.
Sans les comparer, est-ce qu'il y a un petit peu de Napoléon Ier dans Napoléon III ou ils sont totalement différents ?
Écoutez, ils sont très différents. Ils sont d'abord très différents parce que autant on peut dire que Napoléon III, c'est plutôt un souverain du XVIIIe siècle, souverain du XVIIIe siècle amélioré, on va dire. Napoléon III, lui, il commence à toucher Napoléon III, le premier, c'est le XVIIIe, et lui, il commence à toucher véritablement une époque très moderne, le XXe siècle. Quoi, hein. Quand alors il y a un ouvrage de François Choiseul qui est aujourd'hui assez ancien, mais qui montre à quel point les solutions institutionnelles, les solutions économiques du Second Empire ressemblent à celles du gaullisme. Hein. Il est véritablement alors là, pour le coup, en avance sur son temps. Autant, on ne peut pas dire que Napoléon Ier était en avance sur son temps. Il a toutes les qualités, il a le génie aussi en plus par rapport à Napoléon III, mais ça n'est pas un visionnaire.
Oui, c'est vrai.
Alors que Napoléon III, lui, véritablement, alors complètement enserré dans ce conservatisme de son entourage, il sait qu'il faut exploser et aller vers l'avenir. Ce que Napoléon Ier ne faisait pas. Hein. Napoléon Ier, il avait déjà beaucoup de travail avec la gestion du quotidien, hein, sortant de la Révolution française. Et mis à part à Sainte-Hélène, où il se met à prédire l'avenir, et d'ailleurs où il se trompe à tous les coups, il ne s'est pas beaucoup occupé de ça. Il s'est vraiment occupé du présent. Lui.
Effectivement, oui. Quand on relit... je connaissais un petit peu, mais quand on lit votre livre, on a l'impression de la fin d'un monde, de la naissance d'un nouveau monde. Et parfois, je me disais, c'est très curieux, ça me rappelle des choses qu'on vit un peu tous les jours. Là.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors avec, pardonnez-moi, vous voulez me faire entrer dans des, domaines où je m'égare parfois, hein, il faut bien le dire, mais sauf que là, on a affaire à des gens qui savent prendre des décisions, hein, évidemment, alors parfois mauvaises. Mais
ça, c'est gratuit, on va se faire des copains.
Voilà, hein. Oui, bon, de toute façon, comme je le dis, voilà, c'est ça, avec tout ce que je dis, j'ai échappé au contrôle fiscal, c'est donc que finalement, on ne me surveille pas trop.
C'est pas fini.
Oui, c'est pas
c'est
fini.
Pas terminé.
Mais bon, voilà, c'est un petit peu, c'est vrai que c'est un moment de changement, et c'est même d'ailleurs un changement au niveau du vêtement, au niveau de la mode, au niveau de la musique, etc. On sent bien un bouillonnement, mais qui est européen hein, à ce moment-là, et au fond, la France se modernise beaucoup plus que les autres monarchies où le souverain gouverne parce que c'est Napoléon III. Hein. Autant l'Autriche va rester un petit peu engoncée, la Prusse va bien sûr se moderniser sur le plan militaire, le plan des transports, mais restera quand même une société un peu bloquée. Napoléon III, lui, comprend qu'il faut d'abord que la classe moyenne commence à exister, donc il faut lui donner une part de pouvoir. Et puis ensuite, il a compris aussi que cette classe ouvrière, il s'aperçoit qu'à chaque élection, il y a d'abord 5 républicains au corps législatif, donc c'est pas beaucoup. Hein. Et puis tout à coup, il y en a 25, puis il y en a 50, etc. Donc il comprend bien que c'est en train de monter et que s'il ne fait pas les concessions, on va venir, encore une fois, on va venir les chercher. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'à la fin du Second Empire, dans les dernières 10 années, le régime perd toutes les élections dans les centres urbains. C'est quand même la preuve que les dégâts de la révolution industrielle, les dégâts du développement urbain se font au détriment du régime. Donc lui, il est convaincu qu'il faut donner. Et c'est l'époque de la création de la Première Internationale. Il va payer sur sa cassette le déplacement des représentants français à la réunion de la Première Internationale.
C'est incroyable.
Il va rétablir le droit de grève, etc. Mais encore une fois, tout ça, c'est du niveau législatif. Le reste, il a été généreux, il a beaucoup donné sur sa cassette personnelle, mais ça, c'est du patronage. Ça n'est pas la grande modification. Il aurait fallu 10 ans, 15 ans de plus pour que tout ça entre véritablement crée des corps intermédiaires qui empêchent la révolution, hein, puisque c'est comme ça qu'il faut dire les choses.
Exact. Le régime s'écroule en quasiment une journée, on peut le dire. Comment ça se fait ? Il avait un fils.
Oui, alors
là, contrairement à Napoléon Ier,
il y a un paradoxe total qui est le plébiscite pour l'adoption de la nouvelle constitution qui a lieu en mai 1870 et où c'est un raz-de-marée napoléonien, ça, si l'on veut. 7 500 000 oui. Et Napoléon dit j'ai retrouvé mon chiffre. Gambetta dit ça y est, on en a encore pour 20 ans, etc. Et puis tout à coup, cette crise de juillet 1870, alors qu'il est vraiment, on a pas trop le temps d'entrer dans les détails, mais quand on regarde cette crise de 1870, on se demande comment ça a été possible. C'est-à-dire que le prétexte est futile, la France remporte une victoire diplomatique puisque le Hohenzollern retire sa candidature du trône d'Espagne et elle se laisse piéger par Bismarck, en qui Napoléon a trouvé un adversaire bien plus qu'à sa hauteur. Ouais. Alors certes, Bismarck commet cette dépêche d'Ems, mais qui c'est rien du tout. En fait, les Français se sont montés le bourrichon parce que dans le texte, il y a que c'est l'adjudant de service qui a dit à l'ambassadeur qu'il ne serait pas reçu. Adjudant, en allemand, ça veut dire aide de camp. Et les journaux français traduisent par adjudant. Donc on va dire, voilà, ils ont envoyé un adjudant pour l'ambassadeur. Bon, ceci étant dit, il n'y a pas de quoi quand même faire la guerre. Et c'est pourtant ce qui va arriver, parce que Napoléon III est malade. Je vous rappelle qu'il a une pierre de 6 cm de diamètre dans la vessie, donc ça fait un peu mal.
Ça doit fermer,
voilà. Et il est hagard. Il ne peut pas assister au conseil. En plus, l'impératrice a pris le pouvoir avec une espèce de partie de la guerre et n'invite pas les ministres modérés pendant les conseils des ministres. Enfin, il se passe toute une série de choses autour de lui. Il s'en rend parfaitement compte, mais il n'a pas la force de résister. Et l'impératrice, elle, prétend que c'est pour donner un empire intact à son fils qu'elle veut faire la guerre. Alors le résultat,
c'était bien joué.
Évidemment, c'était bien pensé.
C'était bien joué, effectivement. Ouais. Pour finir, avant les questions, je pense qu'il va y avoir plein de questions. Moi, je vais vous faire faire le ronchon du samedi, ça va changer.
Oui.
la statue de Napoléon, de Victor Hugo à Besançon, vous avez peut-être entendu ça, qui a été refaite par la ville de Besançon et qu'on a peinte en noir. Victor Hugo est noir, ça vous évoque
En noir, en noir.
Il est noir, oui, noir de peau.
J'ai rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous voulez dire à des choses pareilles?
On est d'accord. Tout est dit. si, alors peut-être. Comment est-ce qu'on apprend l'histoire en France? Est-ce que ça trouvez que ça va mieux?
Oui, je trouve que ça va mieux. Franchement, ça va mieux. Alors, je suis pas un optimiste de nature. Je suis même plutôt un pessimiste. Mais je crois que, par exemple, pour ce qui concerne notre période, les deux empires, ça va quand même beaucoup mieux grâce à ce bicentenaire qui a été quand même une grande réussite. Là, on a montré quand même aux néo-progressistes, là, et aux, comment dire,
force de progrès,
à ceux qui remplacent la langue de bois par le mensonge, là, qui nous gouvernent en ce moment, on leur a montré qu'il y avait quand même une certaine France qui pensait pas comme eux, quoi. Hein, voilà, c'est tout, et qu'elle était très probablement majoritaire. Et donc ce bicentenaire qui a été traité par le bas, il y a eu des centaines d'événements en France. En plus, les grandes institutions un peu indépendantes ont fait de grandes expos Napoléon qui ont super bien marché. Ça a un peu forcé le président de la République à aller aux Invalides le 5 mai. Moi, je pense qu'il y serait allé de toute façon. Hein. Mais il y avait quand même beaucoup de résistance. Hein. Quand on voit je ne sais pas si ça passera à votre antenne, ça, mais quand on voit le mal que s'est donné Roselyne Bachelot pour empêcher le bicentenaire de Napoléon, on se dit qu'au fond, elle a mieux fait de retourner être chroniqueuse à la télé. Quoi, parce que,
heureusement qu'elle était ministre de droite.
Ça fait
plaisir. Bon, des questions. Peut-être, certainement. Monsieur. Alors, le rôle de Napoléon, je le dis pour la radio, donc le rôle de Napoléon III par rapport à la conquête de l'Algérie, vous avez 3 heures.
Oui, alors Napoléon III, d'abord, quand il arrive au pouvoir, l'affaire est faite, hein, si vous voulez. On a les Français s'installent en Algérie. Ce qui gêne beaucoup Napoléon III et ce qui aurait dû gêner tous les gouvernements postérieurs, c'est que c'est l'armée qui commande en Algérie. Il y a bien sûr un commissaire civil, mais enfin, il est toujours plus ou moins sous le coup de l'armée parce que subsistent encore des poches de résistance, des contrées qui ne se soumettent pas, des tribus qui se révoltent, et ainsi de suite. Alors Napoléon III, lui, par rapport à ça, il croit à la possibilité de faire une espèce d'union personnelle avec l'Algérie. D'où son fameux rêve de royaume arabe. Hein. Alors, il ne s'agissait d'ailleurs pas de créer un royaume arabe au sens où Abdelkader aurait été le roi. Hein. Il s'agissait de faire, comme on avait fait pour le Luxembourg avec les Pays-Bas et d'autres pays, une union personnelle, c'est-à-dire que l'Algérie aurait eu son gouvernement propre, dans lequel les Arabes auraient été inclus, mais que le roi d'Algérie, ça aurait été l'empereur des Français. Hein. Il aurait été un peu comme la reine d'Angleterre, hein, reine et impératrice. Alors lui, ça aurait été l'inverse. Il aurait été empereur et roi. Alors, il n'a pas pu aller au bout du projet, mais les premières lois avaient été votées. Hein, mais là aussi, la résistance est terrible, quoi, hein, parce que d'abord, il n'y a plus, depuis la capture et l'emprisonnement d'Abdelkader, il n'y a plus d'interlocuteurs avec les Algériens, enfin ceux qu'on appelle aujourd'hui les Algériens. Et donc tout ça va sombrer avec la santé de l'empereur dans la deuxième moitié de son règne. Alors après, tout le monde dit évidemment c'était la solution. Moi, j'en sais rien. Hein. Je me garderais bien de dire qu'il y avait une solution à ce système-là. La conquête de l'Algérie, elle a été immédiatement placée sous des auspices guerriers, militaires. Moi, j'ai un peu étudié les années 1830 parce qu'il se trouve qu'un des personnages que j'ai étudié, le général Savary, a été commandant de l'armée d'Algérie pendant un an et demi. Bon, c'est vrai que la douceur du colonisateur ne se fait pas vraiment sentir à cette époque-là.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. D'autres questions ? monsieur. Alors, je résume pour la radio. Oui. Donc, comment est vu Napoléon III à l'étranger et les liens avec Trajan ?
Alors, première chose, c'est la vue à l'étranger. Alors aujourd'hui, les seuls qui étudient vraiment Napoléon III, ce sont les Anglais, hein, à part les Français. Oui, vous allez me parler des Roumains, etc., je sais, mais évidemment. Mais si vous voulez, dans la masse, ceux qui attachent vraiment une importance à ce personnage, ce sont les Anglais, parce que la guerre de Crimée, parce que la relation un petit peu particulière entre la reine Victoria et la famille impériale française. Donc il y a des tas de raisons qui font que l'entente cordiale date d'avant, mais elle est très, très renforcée.
Il a passé un peu de temps chez eux.
Voilà, il a passé beaucoup de temps en Angleterre. Il est enterré en Angleterre, bon, etc. Alors, c'est vrai, vous avez raison de le dire, il faut toujours le rappeler, c'est l'intervention de Napoléon III qui a pour conséquence la création du royaume de Roumanie. Et là aussi, évidemment, on a un souverain français qui est un petit peu plus étudié qu'ailleurs. Les Italiens aussi sont obligés de passer par Napoléon III, puisqu'il a été, un des grands soutiens de l'unité italienne, avec d'ailleurs beaucoup de paradoxes dans ce soutien, parce que Napoléon III aide à la fois le royaume du Piémont à conquérir le nord de l'Italie, mais lui dit stop au moment où il veut entrer dans les États pontificaux. Parce que la France et surtout les soutiens politiques conservateurs catholiques de Napoléon III n'auraient évidemment pas supporté qu'on laisse tomber la papauté. Alors sur son rapport avec Trajan, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que je comprends même pas tellement bien la question. Mais je suppose que ça doit avoir un lien avec la Roumanie. Donc,
il a habité chez sa grand-mère en face de la colonne Trajan. Il a fait une copie de la colonne qu'on trouve à Saint-Germain-en-Laye, au moins.
Voilà.
Et il a fait faire des fouilles à Rome pour rechercher le lien vers Saint-Gétorix et tout ce qui s'en suit.
D'accord, c'est vrai, ouais. Voilà. Effectivement. Bon, une dernière question, rapidement, mais très rapidement, parce qu'on est très en retard. Allez-y. Merci, monsieur.
Ouais.
L'admiration de Napoléon III pour la Grande-Bretagne.
Alors, si vous voulez, si dans la personnalité de Napoléon III, il y a un trait de caractère qu'il n'a pas, c'est le complexe d'infériorité. Hein. Donc déjà, voilà. Il a l'air comme ça, hein, vous savez. Bon,
le petit, plus, mais c'est pas vrai.
En plus, il a, si vous voulez, l'invention de la photographie ne l'avantage pas tellement non plus. Hein, parce que, si vous voulez, quand on voit le portrait de Flandrin et puis des photographies de Napoléon III, on comprend comment les peintres avantageaient leur modèle. Hein. Bon. Alors, l'Angleterre, c'est très spécifique. C'est-à-dire qu'il a visité l'Angleterre au moment de la grande révolution industrielle anglaise ou de la deuxième révolution industrielle anglaise dans les années 1830. Donc il s'est beaucoup inspiré de ça en disant, voilà, et même en disant, mais les Anglais ont commis beaucoup d'erreurs sur le plan social, moi je vais essayer de ne pas commettre les mêmes chez moi. Ça, c'est vrai, le modèle anglais existe. Par ailleurs, son amitié sincère avec la reine Victoria, une amitié qui devient familiale d'ailleurs, puisque Eugénie réussit à s'intégrer là-dedans, n'a rien à voir avec de la politique. Il y a un exemple que je peux vous donner, c'est, vous savez, la visite d'Eugénie au tombeau de Napoléon. À un moment, elle est là-bas et tout le monde dit, elle demande au prince de Galles de s'agenouiller. En fait, la scène n'a jamais eu lieu. Hein. Bon, je vous expliquerai une autre fois pourquoi. Et donc le futur George VI ne s'est jamais agenouillé devant le tombeau de Napoléon. Hein. Voilà, il y a un seul témoignage, c'est le général Canrobert, mais c'est des mémoires posthumes. Donc l'auteur a écrit ce qu'il a voulu. Bon. Tous les autres témoignages ne montrent pas du tout ça. Et au moment de ça, la presse anglaise se déchaîne contre la reine Victoria en disant « Mais qu'est-ce qu'elle est allée faire au tombeau de Napoléon ?» voilà. Donc ça montre là l'ambivalence, c'est-à-dire la reine a un sentiment personnel de proximité avec Napoléon III, mais la politique reste la politique. Et en 1870, l'Angleterre fait payer à Napoléon III la façon dont il a voulu traiter la crise austro-prussienne en 1866, en disant « moi, je vais rester neutre, puis en échange, vous me donnerez la Belgique ». Quand on apprend à Londres que Napoléon a demandé la Belgique, vous comprenez, ça fait partie des choses où politiquement, les Anglais ne l'auraient de toute façon jamais supporté.
Vieux souvenir.
Voilà. Et donc là aussi, c'est un... Il ne faut jamais oublier que les hommes d'État ont leurs propres sentiments. Alors, on les met souvent en avant parce que, voilà. Hein, mais que la politique, elle reste souveraine dans ce domaine-là. Et 1870 montre bien, au fond, l'échec de la politique anglaise de Napoléon III. Quoi.
Merci beaucoup Thierry Lenz.
Merci.
Merci. Merci infiniment. Achetez le livre. Achetez-le.
Voilà, fin de ce numéro d'Expresso. Retrouvez toutes nos interviews sur timelinepodcast.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouvel invité.